Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral Digne 99.3. Aujourd'hui, dans cette émission spéciale, je reçois trois étudiants de l'IUT d'Aix-Marseille, site de Digne-les-Bains, qui nous parleront donc d'un sujet sur l'agriculture, un sujet donc en trois parties, avec en première partie les enjeux de l'agriculture, en seconde partie l'agriculture biologique, et en troisième partie, la présentation d'un projet auprès d'un agriculteur de la vallée de l'Asse. Restez à l'écoute, c'est tout de suite. Bonjour Elda, bonjour Julien, bonjour Léna.
Bonjour à tous les auditeurs.
Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Avant de commencer, pourriez-vous nous présenter le cursus scolaire que vous êtes en train de suivre ?
Oui, alors exactement, nous sommes tous les trois en DUT Génie Biologique, option agronomie, à l'IUT d'Aix-Marseille, sur le site de Digne-les-Bains.
Et donc, qu'est-ce que l'agronomie ? Donc, le mot agronomie est formé de deux racines grecques, donc agros, ager, le champ, et nomos, loi. Donc, au sens littéral du terme, l'agronomie signifie la loi des champs.
L'agronomie, c'est en gros les sciences qui s'appliquent à l'agriculture. Donc on apprend comment fonctionnent les sols, comment les plantes poussent, le nom des plantes, on apprend les techniques d'élevage, de maraîchage, de viticulture.
Voilà, donc ça c'est la partie théorique et nous on est en deuxième année et on a commencé à faire pas mal de sorties pour être sur le terrain et rencontrer des agriculteurs. Enfin on a fait comme on a pu compte tenu des circonstances sanitaires actuelles.
Et justement, allier la théorie et la pratique, donc à travers les TP et les sorties, c'est bien ce qui fait la caractéristique principale de notre formation. Donc à l'issue de ces deux années, on est ainsi bien formé. Par ailleurs, donc le cas de Digne-les-Bains est idéal pour notre formation, notamment par la présence de montagnes qui permettent d'étudier une faune, une flore très très variée. C'est important de connaître la flore et la faune, car ces deux éléments font partie de nos systèmes de production.
Et notre formation arrive à son terme dans 15 jours et nous voulions partager nos connaissances avec les auditeurs avant de partir parce que faire ses études en agronomie, c'est quelque part être engagé dans sa vie.
Alors engagé, ça veut dire quoi par exemple ?
C'est parce qu'en fait, l'agriculture concerne un de nos besoins primaires, c'est-à-dire comment obtenir notre nourriture, que consommer et de quelle manière.
Et toutes ces questions, donc, elles se posent de plus en plus avec l'augmentation de la population mondiale, qui s'est très fortement accélérée depuis 1930, et une prise de conscience environnementale.
Oui, et aujourd'hui, en tant que jeune, on se pose beaucoup de questions. Je me demande comment vont se nourrir mes enfants demain. Il y a énormément de gaspillage aujourd'hui au niveau des ressources alimentaires. Est-ce que vous connaissez, par exemple, le principe des trois tiers ? On sait qu'un tiers des cultures sont perdues lorsqu'elles sont en champ à cause des intempéries et des maladies des ravageurs. Un tiers de ce qui a survécu à ces intempéries et à ces ravageurs sera perdu au cours de la récolte et du stockage. Et parmi la quantité d'aliments qui aura été récoltée et stockée, il y en a encore un tiers qui va être perdu au cours de la consommation dans les supermarchés ou qui vont finir à la poubelle. Donc il y a un réel problème quelque part de gestion des ressources alimentaires.
Et en plus de cela, nos modes de production actuels sont très énergivores. Et à titre d'exemple, pour une calorie alimentaire, il faut 10 à 12 calories d'énergie fossile. Donc c'est comme si pour avoir une heure de lumière dans votre cuisine, vous deviez pédaler sur un vélo relié à une dynamo pendant environ 12 heures. Donc votre corps serait épuisé. Et ici, c'est la planète qui s'épuise avec son sol, ses réserves en eau douce, sa biodiversité. Donc les questions qui se posent, c'est comment allons-nous faire pour nous nourrir si notre alimentation dépend du pétrole et que ce dernier disparaît ?
Nous avons besoin de continuer à manger et inventer des manières de se nourrir sans pétrole en promouvant des méthodes de production manuelles, locales. Ce n'est pas un délire d'un idéaliste alternatif écolo perdu au fond d'une montagne. C'est quelque chose de vital pour nourrir les hommes de demain. D'ailleurs, rappelons que 80% des agriculteurs dans le monde sont des paysans, c'est-à-dire des gens qui pratiquent une agriculture à taille humaine, avec souvent peu de mécanisation, et qui vendent localement leurs produits. Le modèle agricole prôné dans les pays riches, c'est-à-dire en France par exemple, n'est pas une généralité. Mais en fait, il a un tel poids économique et financier qu'il cache toute la diversité et la résilience des petites agricultures.
Alors, à propos de la résilience, on entend beaucoup parler de résilience en ce moment. Qu'est-ce que vous entendez par ce terme ?
Alors, la résilience, ça va être la capacité d'un système à revenir à un état stable après avoir subi une perturbation. Aujourd'hui, on parle du manque de résilience de notre système, qu'il soit alimentaire, social, environnemental ou économique. Cela signifie que, qu'en cas d'un changement brutal de notre environnement, nous ne serons pas en mesure de nous adapter correctement et assez rapidement pour faire face à ce problème. Et donc, dans un monde où l'humain veut tout contrôler, cela pourrait être catastrophique. On se doit donc, nos générations, de faire prendre conscience à la société de ce manque de résilience qui pourrait un jour nous porter atteinte, si nous ne faisons rien.
Alors, c'est-à-dire ?
Prenons un exemple. S'il y a une crise pétrolière demain, avec une augmentation de son prix, comment les agriculteurs pourront-ils continuer à acheter de l'engrais azoté, dont un litre produit requiert un litre de pétrole nécessaire à la croissance des plantes ? Comment continueront-ils à travailler la terre et leurs champs avec des tracteurs dont faire le plein coûtera extrêmement cher ?
Les coûts de production seraient insoutenables et le prix des aliments augmenterait forcément en conséquence, creusant ainsi les inégalités au sein de la société.
Et de plus, avec une population grandissante sur des surfaces agricoles qui, elles, n'augmentent pas, voire même régressent, il faut assurer la production et la sécurité alimentaire. On peut rappeler que seulement 4% de la surface terrestre est cultivable, cela représente environ 11% des terres émergées, et le reste étant occupé par les zones de pâture pour les animaux, les espaces boisés et les espaces urbains et voies de communication.
Et donc si l'espace est un facteur limitant, l'eau aussi en est un. L'agriculture en consomme énormément. En fait, elle utilise 90% des ressources. Et il est vraiment très important aujourd'hui, en considérant les impacts du réchauffement climatique, de trouver des alternatives afin de réduire l'irrigation, c'est-à-dire l'eau qu'on apporte au niveau des champs, et de trouver des végétaux qui vont en fait résister à la sécheresse.
Aujourd'hui, on a de nombreux scientifiques qui font des recherches en génétique et ils essayent de trouver des nouvelles variétés, par exemple de choux, de blé ou de betteraves, qui possèdent un gène d'intérêt offrant une résistance à la sécheresse, au sel ou à une maladie.
Il existe aussi des agriculteurs qui font eux-mêmes leur propre expérimentation, leur propre sélection dans leurs champs, comme les jardiniers amateurs. Ça, c'est le réseau des semences paysannes. Les variétés créées, en fait, elles sont adaptées au lieu où elles ont été créées, où elles ont été développées. Donc, si on prend un exemple, si vous faites pousser un blé dans votre jardin à Digne, par exemple, ou enfin un agriculteur dans un champ à Digne, le blé va être, en fait, s'il a été sélectionné à Digne, va être adapté à cette région-là de France et ne pourra pas pousser ailleurs. Donc, il ne pourra pas pousser à Nantes, par exemple.
Et malheureusement, donc ces recherches prennent énormément de temps. Certaines peuvent prendre jusqu'à 10 ans pour certaines créations variétales. Ainsi, lorsqu'une variété résistante est commercialisée, ils doivent à nouveau se repencher sur la recherche de nouvelles variétés, car entre-temps, les conditions climatiques, les ravageurs auront changé ou se seront adaptés. Donc tout est en perpétuel mouvement et il faut constamment s'adapter.
Alors, ces deux systèmes, la sélection par les scientifiques et la sélection par les paysans, sont-ils complémentaires l'un de l'autre ?
Oui, tout à fait. Et pour atteindre un système qui soit le plus résilient possible, l'idéal, et c'est ce qui existe déjà, c'est d'allier les connaissances des scientifiques pour la recherche avec les compétences des agriculteurs pour le côté pratique et technique.
Et cela peut paraître paradoxal, mais cette sélection génétique dont on vient de parler entraîne en réalité quelque part une perte de diversité. Donc sur la planète, il y a 300 000 espèces végétales qui ont été recensées. Seuls 0,1% sont domestiquées, c'est-à-dire sont utilisées dans le cadre de notre alimentation et d'autres productions pour nourrir les animaux ou pour faire de l'énergie. 15 espèces végétales constituent l'alimentation principale de base et occupent donc une grande majorité des surfaces. Et enfin, il n'y a que 4 espèces végétales et 3 espèces animales qui, à elles seules, fournissent plus de 50% de l'alimentation mondiale. Donc, c'est-à-dire le blé, le maïs, la pomme de terre, le riz pour les espèces végétales, et on a le bœuf, le porc et le mouton pour les espèces animales.
Alors, tout ça est bien alarmant. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ces constats ?
Eh bien, en fait, déjà, en prendre conscience, c'est déjà faire un pas vers un meilleur avenir. Et en fait, de manière globale, il faudrait revoir nos modes de production agricole. Il faudrait passer à une agriculture plus respectueuse de l'environnement, où les hommes travaillent avec la nature et non plus contre elle, en profitant des services écosystémiques rendus par la nature.
D'autre part, il faut revoir sa manière de consommer, afin de permettre à tout le monde de pouvoir se nourrir. Car si dans les pays développés, comme la France par exemple, nous mangeons juste à notre faim et sans excès, sans gaspillage, et qu'il y aurait une meilleure répartition des richesses, nous n'en serions pas là. Donc on se retrouve après une pause musicale sur un son de Ridan, l'agriculteur.
J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'envoie en l'air toute l'atmosphère pour voir l'espace. J'troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Grosse boîte que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison, avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. J'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirai l'océan de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine. Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Je ferai des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité, pour que mon passé coule sous les ponts. Je ferai des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité, pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison, avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme, que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Soleil à l'horizon, ça fait longtemps que je l'attendais, la petite lueur de la raison. Une petite chanson au clair de lune pour réchauffer le cœur de pierre. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. La mélodie de la nature reprend ses droits sur la folie. C'est toute la vie qui nous observe que l'on oublie au fil du temps. La mélodie, celle de la vie que l'on consume à chaque instant. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Tous nos acquis s'écrasent au sol et j'ai choisi la clé des champs. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Et si le blé me file du bonheur. bonheur, je me ferai peut-être agriculteur.
Voilà, c'était Ridan qui chantait l'agriculteur. On retrouve nos trois jeunes étudiants, donc Léna, Elda et Julien, qui viennent de l'IUT, site de Digne-les-Bains. Après avoir parlé dans la première partie des enjeux de l'agriculture, on passe donc à la partie sur les agricultures biologiques, l'agriculture biologique. Alors, tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait changer nos modes de production pour travailler avec la nature et non contre elle. C'est ce qui est déjà fait en agriculture biologique, il me semble. Les agriculteurs bio prennent soin des plantes, des animaux et utilisent moins de produits chimiques.
Le bio, c'est pas si simple que ça à définir. On a la plupart des consommateurs ne connaissent que le logo AB et l'eurofeuille associé aux grandes marques bio, comme par exemple Bjorg, Lima, Soy, Priméal, Bio Carrefour, ou encore la marque bio Regain d'Intermarché, les jardins de Léo et Léa, etc.
Mais le bio, ça ne se résume pas qu'à ça en fait. Il n'existe non pas une seule, mais des agricultures biologiques. Et le logo AB, qu'on connaît tous, donc avec le A et le B, la petite feuille sur le B, ne représente en réalité qu'un dixième de toutes les agricultures biologiques existantes.
Pourriez-vous nous donner une définition de ce qu'est l'agriculture biologique ?
D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les agricultures biologiques se sont développées en parallèle de la montée en puissance de l'agriculture productiviste depuis le début du XXe siècle. Et ces mouvements représentaient des agriculteurs soucieux de leur environnement.
Si on veut vous donner en fait une définition de ce qu'est l'agriculture biologique, en fait, c'est plutôt la définition de ce que sont les agricultures biologiques, comme je disais précédemment. Ce sont des démarches, en fait, des façons de produire des plantes, des végétaux, des façons d'élever des animaux qui ne sont pas forcément labellisés d'ailleurs, mais qui se font dans l'esprit du respect des êtres vivants et des ressources naturelles comme le sol et l'eau.
Les mots-clés qui sont associés à ça sont des êtres vivants, des territoires vivants, des produits vivants et des sols vivants. Le bio, en quelque sorte, c'est donc protéger l'environnement, respecter le bien-être animal et agir pour le développement durable et prendre soin de la nature.
L'agriculture, au sens que nous connaissons, en général, correspond donc à une certification, à un label. Donc le label AB, qui s'obtient en respectant un cahier des charges qui est aujourd'hui commun à l'Union européenne. Donc depuis 2010, le logo Eurofeuille, c'est-à-dire la feuille avec des étoiles jaunes sur fond vert, a remplacé en fait le logo agriculture biologique dont on parlait précédemment, qui lui avait été créé en 1983. Donc ce logo-là, agriculture biologique, en fait, n'a plus aucune valeur aujourd'hui. C'est-à-dire que si sur un produit, seul le logo AB apparaît sans être accompagné de l'eurofeuille, ce produit ne peut pas être considéré comme bio aujourd'hui. Donc c'est vraiment ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir conscience pour vraiment bien identifier quels sont les produits qui sont officiellement biologiques aujourd'hui.
Et la raison pour laquelle on a gardé ce logo, c'est parce qu'il est bien identifié par les consommateurs. Et le principal objectif de l'agriculture biologique au sens du cahier des charges européen, c'est de ne pas utiliser des produits chimiques de synthèse. Les conditions à respecter en élevage sont également plus strictes qu'en agriculture conventionnelle, mais ça s'arrête là.
Il existe aussi d'autres labels et donc d'autres formes d'agriculture bio. En fait, c'est un peu comme le compteur de vitesse d'une voiture. Le niveau 0, c'est le label AB classique, donc qu'on connaît tous. Un agriculteur peut choisir de plus ou moins s'engager dans l'agriculture biologique. Sa démarche, il peut la pousser bien plus loin que celle du label. D'autres labels existent comme Biocohérence, qui correspond en réalité à l'ancien cahier des charges AB français, ou encore Nature et Progrès, Déméter, et permet de valoriser justement cet engagement plus fort de l'agriculture en bio, mais pas que.
Et il existe aussi d'autres types d'agriculture, mais qui ne sont pas labellisés, qui n'ont pas un logo associé. L'agriculture paysanne promeut ainsi une agriculture à taille humaine de proximité. Donc les paysans ne sont pas forcément en bio, ils utilisent parfois des produits chimiques, mais qui peuvent être au final moins dangereux que ceux utilisés en agriculture biologique, enfin ceux autorisés en agriculture biologique. Et ces paysans sont aussi en lien étroit avec la nature qui les entoure, leurs ressources, leur territoire. En fait, ils cherchent surtout à atteindre une certaine autonomie et à créer une bonne dynamique socio-économique au sein du territoire dans lequel ils vivent.
Par contre, il existe des labels assez peu connus, comme par exemple le label Bio Français Équitable, qui porte attention à la fois au mode de production en AB et à l'aspect social et local de la production.
Alors, qu'est-ce que vous entendez par aspect social ?
Ce sont les mêmes principes que pour le logo Fairtrade, par exemple, donc commerce équitable. Ce label va valoriser des exploitations à taille humaine, donc où l'agriculteur est convenablement rémunéré, et où les exploitations sont durables, viables, autonomes et donc transmissibles. Ces modes de production sont donc à promouvoir car ils prennent en compte tous les piliers du développement durable que nous connaissons tous.
Alors, sur le plan technique, les agricultures biologiques permettraient-elles de nourrir le monde ? On dit souvent que les rendements sont moins élevés.
Alors, pour répondre à votre question qui en fait est très complexe, qui est le sujet de nombreuses thèses aujourd'hui même, je vais simplement citer Jacques Caplac, qui est chercheur et agronome, et qui a écrit que, je cite, « Toutes les études internationales qui ont étudié les rendements réels dans des fermes réelles sur des millions d'hectares parviennent à la même conclusion. Dans les pays non tempérés, qui correspondent aux trois quarts de la planète et à la quasi-totalité de l'humanité, les rendements de l'agriculture biologique, donc biologique au sens large du terme, en considérant toutes les méthodes de production alternatives qu'on a citées un peu précédemment, sont aujourd'hui en fait supérieurs à ceux de l'agriculture conventionnelle, sauf au Canada et en Europe. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est justement dans ces pays qu'il est difficile de trouver non seulement de la main-d'œuvre agricole, mais c'est aussi des pays dans lesquels l'utilisation des variétés locales, comme on en parlait juste un peu précédemment dans l'émission, n'est pas favorisée. Les grandes industries agrochimiques et agricoles, en fait, vont plutôt promouvoir l'utilisation de variétés qui sont productives, mais pas forcément résilientes dans le temps et qui s'adaptent pas forcément à une agriculture biologique avec moins d'intrants.
Alors, ça paraît bien compliqué pour s'y retrouver dans tous ces labels.
C'est vrai qu'à première vue, le sujet il peut paraître assez complexe, mais en réalité, il suffit de garder à l'esprit que le label AB le plus connu n'est que la partie émergée de l'iceberg et qu'il ne faut pas forcément rechercher un produit labellisé lors de ses achats. Si j'avais un conseil à donner, ça serait avant tout de consommer local, de saison et de connaître les agriculteurs chez qui nous faisons nos courses, puisqu'en réalité, le label, en fait, c'est un outil d'identification. Et si l'on connaît déjà un producteur ainsi que la qualité de son travail, pourquoi avoir un label ? Parce que, en réalité, il faut aller voir les agriculteurs qui vendent leurs produits sur le marché, les rencontrer, échanger avec eux et se faire son propre avis sur leur mode de production.
Alors, ces labels induisent donc de nombreuses méthodes alternatives de production afin de travailler avec et non pas contre la nature, comme vous nous l'avez expliqué. J'ai vu au journal télévisé régional que vous meniez un projet avec un agriculteur situé dans la vallée de l'Asse dans le but de favoriser la biodiversité.
Exactement, nous sommes actuellement en train de réaliser un projet avec un agriculteur qui se situe dans la vallée de l'Asse. Donc ce projet va englober tout ce dont on a parlé précédemment. afin de favoriser donc la biodiversité et de la préserver. Mais avant cela, nous allons faire une petite pause musicale pour nous mettre de bonne humeur.
Toute l'année, même les jours fériés, sous la pluie, la neige ou le vent, notre passion, notre métier se vit au milieu des champs. À la fraîche, au petit matin, le coq nous clame ses chansons. L'année prochaine, oui, c'est certain, il remportera l'Eurovision. On ne redoute pas de la peur, pour le pire, pour le meilleur, la terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs. Pâturage en pâturage, aux petits soins pour nos bovines. Les cloches entonnent sur les collines, la mélodie de nos campagnes. La nature nous donne cette envie de croire en notre avenir. Ce terroir nous a vu grandir, on lui consacre notre vie. Ne fais pas de ville, on ne va pas trier les lentilles. À côté du puits envolé, avec le cou déjà levé, y aura Jim, notre vedette, on t'attendra de l'île à la buvette. On se couchera à point d'heure, sans le pire, juste le meilleur. La terre est au fond de nos cœurs, car nous sommes agriculteurs,
alors on revient dans cette émission avec Elda, Léna et Julien de l'IUT de Digne-les-Bains et pour une troisième partie avec la présentation de ce projet que vous avez donc réalisé avec cet agriculteur de la vallée de l'As.
Oui, donc comme le disait Julien, c'est un projet qui englobe vraiment tout les enjeux et qui a pour but de, entre autres, favoriser la biodiversité. Donc, qu'est-ce que c'est la biodiversité et pourquoi c'est important ? La biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants ainsi que des écosystèmes. Donc un écosystème, c'est un milieu naturel. Et donc, il y a des êtres vivants qui vivent dedans. Donc, par exemple, avoir une biodiversité élevée dans un endroit, cela signifie qu'il y a beaucoup d'espèces différentes dans un milieu avec plein de relations et d'interactions entre elles, un peu comme une toile d'araignée avec plein de liens entre les différents points.
Voilà, après, le problème, c'est que notre façon de produire et de consommer ont un impact direct sur les insectes, les oiseaux et les organismes qui vivent dans le sol, par exemple. Leur déclin peut s'observer à l'échelle d'une vie, et peut-être que certains se rappellent la quantité d'insectes qui autrefois étaient écrasés sur les pare-brises, et on voit bien que maintenant, ce n'est plus le cas.
Alors, l'ensemble des organismes vivants, donc tels que les insectes, les oiseaux, les mammifères ou encore toute la vie du sol, donc ce qu'on appelle la pédofaune, ça permet de réguler les agrosystèmes, donc des écosystèmes qui sont cultivés par l'homme. Donc par exemple, citons les larves de coccinelles qui vont prédater les pucerons. Donc le puceron, c'est le principal ravageur en agriculture. Donc si les coccinelles sont détruites par nos modes d'agriculture, alors nous devrons utiliser des produits phytopharmaceutiques pour détruire ces pucerons, ce qui entraînera donc la perte d'autres espèces. C'est donc un cercle vicieux qu'il faut essayer de stopper.
La protection de la biodiversité, de la qualité de l'eau, de l'air et du sol sont des éléments primordiaux. Et le problème, c'est que actuellement, notre système de production intensif, ainsi que nos modes de consommation, sont en train de détruire les éléments dont nous dépendons pour vivre. Pour donner une image, c'est vraiment comme si nous étions en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis.
Donc pour résumer, l'agriculture conventionnelle productiviste a en quelques années utilisé des énergies fossiles, ce qui a fortement contribué donc à une pollution généralisée de l'eau, du sol et de l'air, et qui a induit une baisse de la biodiversité au sein de nos campagnes et dans nos sols. C'est un système qui n'est donc pas viable pour l'avenir, et il faut trouver des solutions pour satisfaire une demande croissante en termes de production alimentaire, étant donné le fait que le nombre d'individus augmente, tout en préservant donc notre environnement.
Il est absolument primordial de se préoccuper de la façon dont nous produisons. Et d'ailleurs, donc avec notre formation à l'IUT, nous étudions les modes de production intensifs, donc comme on peut voir vers Paris, dans la Beauce, ces grands champs, ces grands open fields, vraiment avec de gros rendements sur une surface, des grandes surfaces de culture. Et on étudie donc ces systèmes parce qu'ils représentent effectivement ce qui est fait donc actuellement dans de nombreux, des pays riches notamment. Et on étudie en parallèle donc les manières alternatives de produire. En fait, cette dualité nous permet de vraiment peser le pour et le contre de chaque système de production. On a besoin des deux aujourd'hui pour pouvoir répondre à aux besoins alimentaires croissants. Mais néanmoins, on tend vers des méthodes de production où il faudrait moins de mécanisation, moins d'usage de pesticides et où on se rapproche, on est sur des exploitations à taille un peu plus humaine.
Vous avez des exemples à nous donner ?
Oui, il y a déjà de plus en plus de techniques qui permettent de limiter le travail du sol et l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. Et vous avez sûrement déjà entendu parler de la permaculture ou l'agroforesterie, l'agroécologie. Voilà, c'est des termes qu'on entend assez souvent en ce moment. Et on a depuis quelques années déjà, et heureusement, une prise de conscience collective sur les problèmes engendrés par notre mode de vie. Et ce sont donc des techniques dont on entend de plus en plus parler.
Donc il y a plein de techniques différentes, mais dans les grandes lignes, en fait, elles cherchent à associer ensemble plusieurs cultures complémentaires pour essayer de reproduire ce que l'on voit dans la nature. Quand vous vous baladez en forêt, par exemple, on voit rarement une seule espèce d'arbre, sauf dans les plantations de conifères notamment. Mais en général, il y a plein d'espèces qui cohabitent entre elles et qui s'entraident et qui permettent ainsi d'être plus fortes, de survivre et de s'adapter au sein de leur environnement.
Alors bien sûr, dans la nature, il y a toujours des espèces qui sont en compétition entre elles. Mais si on choisit bien, on peut sélectionner des espèces qui vont pouvoir vivre ensemble. Et si elles s'associent bien, alors elles auront moins besoin de l'usage de pesticides pour vivre.
Alors c'est en fait du social pour les plantes, c'est ça ?
Oui, voilà, on peut dire ça. Et les associations sont parfois très utiles, donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, un verger de pommiers sans autre chose que des pommiers, attaqué par des pucerons, devra être traité à l'insecticide. Si maintenant on prend le même verger, mais que l'on plante des fleurs entre les arbres, cela va attirer des coccinelles, qui sont des prédatrices des pucerons. Les coccinelles vont manger les pucerons, et donc à terme on aura de plus en plus de coccinelles et de moins en moins de pucerons, et du coup il y aura moins besoin ou plus besoin d'utiliser de l'insecticide. C'est ce qu'on appelle la lutte biologique.
Alors, ces techniques sont en plein essor et sont très intéressantes à mettre en place. Dans le cadre de nos études et donc de notre projet, nous travaillons justement avec un agriculteur, M. Aveline, donc qui se situe dans la vallée de l'Asse, et qui souhaite mettre en place ce type de technique au sein de sa parcelle. Et donc, nous, on l'aide à mettre en place des haies et des bandes enherbées sur une de ses parcelles.
Le but de ce projet, qui est donc de favoriser la biodiversité, c'est aussi, entre autres, de montrer aux agriculteurs qu'il est possible de mettre en place des mesures environnementales, des mesures qui protègent les insectes, les oiseaux, qui protègent le sol, l'eau, sans que cela ne soit en fait ni trop compliqué, ni trop coûteux. Le but de ce projet, c'est de vraiment montrer et communiquer que ces techniques sont tout à fait réalisables.
Alors ce projet, il va reposer sur trois grands axes. D'une part, le développement et la préservation du milieu naturel environnant, donc de la biodiversité. Ensuite, la promotion des pratiques agro-environnementales. Et enfin, la communication auprès des professionnels et du grand public, notamment à travers la télévision. Donc, nous avons réalisé précédemment une intervention sur DCTV, mais aussi le journal. Donc, un article a été réalisé sur le projet, sur le journal La Provence. Et enfin, à travers la radio, donc ce que nous sommes actuellement en train de faire à travers la radio Fréquence Mistral.
Alors, est-ce que vous pourriez expliquer plus concrètement ce que vous allez mettre en place ?
Oui, donc en fait, le but, c'est de mettre en place 3 lignes de haies sur une parcelle de 9 hectares. Et cette parcelle, elle est actuellement cultivée en blé, en petit épeautre et en pois chiche en rotation. Donc, c'est des cultures différentes selon les années. Et on aurait donc une grande parcelle avec des cultures en dessous de quelques lignes d'arbres. Ça, c'est une technique qui fait partie de l'agroforesterie. Et cette méthode a de nombreux avantages.
Alors justement, qu'est-ce que c'est que l'agroforesterie ?
Alors l'agroforesterie, c'est l'assemblage du mot agros, qui signifie le champ, et forêt. Donc en somme, l'agroforesterie, ça va être l'association entre une activité agricole, donc relative à l'agriculture, comme la culture de céréales, le maraîchage ou encore le pâturage, avec la plantation d'arbres. Donc quand on dit qu'une parcelle est cultivée en agroforesterie, cela va signifier qu'on va avoir des cultures sur le sol, avec des arbres, et tout ceci sur la même parcelle agricole.
Donc les haies qu'on va mettre en place auront plusieurs étages, donc, comme dans des immeubles. Donc ce seront des haies qu'on appelle pluristratifiées. Cela signifie que la haie est composée de plusieurs strates, donc l'une arborescente, la plus haute, avec des arbres comme le frêne, le chêne, et l'autre arbustive, c'est-à-dire un peu plus buissonnante, avec des végétaux comme l'aubépine, qu'on connaît assez bien.
Et donc, en fait, c'est intéressant de mettre des haies sur une parcelle, parce que cela va permettre d'attirer des auxiliaires de culture. Donc, des auxiliaires de culture, c'est des insectes qui vont prédater les ravageurs de culture, donc les insectes qui sont nuisibles. Et donc, ces auxiliaires, qui sont donc bénéfiques, vont permettre de diminuer les pesticides utilisés sur les cultures. Ça va également permettre de lutter contre le vent et de lutter contre la chaleur qui est liée à l'ensoleillement important en été. Ça va également permettre d'apporter de la nourriture pour les brebis grâce aux feuilles, donc avec du fourrage, et d'avoir plus de fleurs pour attirer les abeilles, par exemple.
Donc, mettre des arbres, comme nous l'a dit Elda, apporte de nombreux avantages sur le long terme. Mais c'est vrai qu'au début, ça demande un travail qui est important pour l'agriculteur. Le temps de définir ses plans de plantation, de choisir les espèces, de s'approprier la technique aussi, qui est assez récente pour les agriculteurs, enfin, assez novatrice, quoi. Cependant, ça reste quelque chose qui est accessible. Et il existe plein de solutions actuellement financières et techniques qui permettent aux agriculteurs justement de se lancer dans ce type de projet.
Alors nous, dans notre cas, nous avons fait appel au lycée agricole de Carmejane, donc qui se situe tout près de Digne-les-Bains, pour les travaux de plantation. Donc d'une part, cela va permettre de diminuer le temps de travail pour l'agriculteur, car c'est quand même un travail assez important, comme on le disait précédemment. Et d'autre part, ça va permettre d'apporter des connaissances pratiques aux lycéens dans le cadre de leur formation agricole.
Également, dans le cadre de ce projet, nous avons aussi réfléchi à comment valoriser des zones de la parcelle qui sont actuellement trop humides et donc qui sont difficiles à travailler. Par exemple, le tracteur s'enfonçait au moment des semis et pas grand-chose de poussait, donc c'était pas vraiment une zone de la parcelle exploitable. Du coup, on a eu l'idée de mettre en place une prairie fleurie, c'est-à-dire de semer des graines de plein de plantes différentes. Certains ressemblent à ce que l'on peut appeler de l'herbe et d'autres sont des fleurs. Et l'intérêt, donc, c'est d'augmenter la biodiversité, car chaque plante est comme un immeuble ou une épicerie. C'est-à-dire qu'elle peut accueillir et nourrir plein d'insectes différents, dont certains sont utiles pour la défense du blé poussant juste à côté. La diversité des plantes permet aussi d'améliorer le sol, parce qu'avec leurs racines, elles font le même travail que le jardinier lorsqu'il bêche. Elles permettent en fait, donc d'aérer le sol et d'ameublir la terre, ce qui va permettre de favoriser l'absorption de l'eau, par exemple.
Alors, où allez-vous trouver ces graines ?
Alors, on va utiliser une technique qui s'appelle la méthode de la fleur de foin, qui est une technique qui est très ancienne. Donc, à l'époque, les paysans récupéraient la poussière qu'il y avait au fond de leur grange. Donc, vous êtes tous allés dans une grange avec des bottes de foin, des bottes de paille. Et y a, vous voyez, au sol, il y a toute cette poussière qui est assez âpre et qui est assez prenante au niveau des voies respiratoires. Et donc, dans cette poussière, en fait, il y a plein de graines. Et ces paysans ont ramassé ces graines et les semé dans des champs qui étaient nus ou dans des prairies qui commençaient à être un peu dégradées. Et lorsque les conditions idéales pour la germination revenaient, donc souvent au printemps avec l'augmentation des chaleurs, toutes ces graines donc germaient et donnaient une prairie qui était à nouveau riche en espèces et qui pouvait être consommée par les animaux tout en apportant pas mal de biodiversité au sein du système agricole.
Alors donc nous avons cherché un agriculteur qui pourrait donc nous mettre à disposition une parcelle à lui donc pour récupérer des graines. On en a trouvé un vers Champtercier qui a une très belle prairie avec plein de plantes différentes, d'espèces différentes, de variétés différentes, dont on pourra récupérer les graines pour les semer sur la parcelle de Monsieur Aveline, donc dans la vallée de l'Asse. Cette technique est très peu utilisée de nos jours. Elle s'est beaucoup développée dans les Alpes, vers la Suisse depuis quelques années. Et le Conservatoire National Botanique Alpin travaille actuellement dessus, donc sur cette technique. C'est donc une technique qui, à terme, devrait prendre beaucoup d'ampleur.
Alors, un beau projet. Et actuellement, vous en êtes où dans ce projet ?
Alors voilà, nous, actuellement, on est en train de mettre en place un cahier des charges avec les coûts, les dates de plantation, par exemple, qui sont les acteurs qui vont venir aider pour ce projet. Et il sera mis concrètement en place dans les années à venir. Et on espère qu'il donnera envie à d'autres agriculteurs de se lancer dans des mesures de protection de l'environnement.
Et alors pour nous tous citoyens lambda, à notre échelle, que pouvons-nous faire au quotidien ?
Eh bien tout d'abord, un point important, il faut éviter le gaspillage qui représente une perte importante des aliments. D'autre part, on peut mettre en place un compost, donc c'est assez facile à réaliser chez nous. On peut acheter des produits locaux, français et si possible labellisés. Et surtout, être curieux, se renseigner, visiter des fermes, des agriculteurs qui habitent à côté de chez nous. Diminuer notre consommation de viande, faire un potager par exemple avec nos enfants, avoir des fleurs à ses fenêtres, apprendre aux enfants à planter et à connaître les fruits et les légumes de saison. Donc il y a plein de possibilités, mais il suffit d'être créatif.
Et puis quelque chose qui est vraiment important et qu'on aimerait vraiment transmettre, c'est qu'il est temps de reconsidérer notre rapport à la nature. Il faut redéfinir notre rapport aux animaux, mais aussi à tout ce qui est vivant autour de nous. Il y a 10 millions d'espèces sur Terre, végétales et animales, tout compris. Et nous avons mis dans une boîte qui s'appelle Nature ces 10 millions d'espèces en mettant une barrière entre nous et elles, comme si on ne faisait pas partie du même monde. Mais ce sont elles qui assurent la viabilité de la Terre. On devrait en fait se demander qui c'est qui rend la Terre habitable. Est-ce que c'est nous, avec nos maisons, avec nos infrastructures, avec nos méthodes technologiques ? Si on prend les vers de terre, ils permettent d'ameublir le sol, de le rendre vivant et donc de faire pousser des plantes que nous mangeons après, que les animaux mangent après. Les abeilles nous permettent de manger des fruits et des légumes tous les jours, d'avoir un petit déjeuner avec du jus de fruits. L'homme n'est pas responsable de la viabilité de la terre. Et quand on parle d'effondrement, ce qui peut faire paniquer grand nombre d'entre nous, en fait, ça va être l'effondrement de l'espèce humaine, qui n'est qu'une espèce parmi les 10 millions d'autres existantes. Et toutes ces espèces vont nous survivre, en fait.
Voilà, et donc, il est temps que les hommes se racontent une autre histoire. Il est temps que nos enfants croient en autre chose que le pouvoir, l'argent, la croissance économique et le consumérisme. Et c'est en passant tout d'abord par une révolution agricole, en revoyant nos modèles de production et de consommation, que nous allons commencer à changer notre histoire et à aller vers une sobriété heureuse.
Merci pour cette belle émission. J'ai envie de vous poser quand même quelques petites questions, juste pour savoir ce projet donc sur la biodiversité avec cet agriculteur, Monsieur Aveline. Comment vous êtes, c'est vous qui êtes allé à sa rencontre. Comment vous avez réussi à mettre cette initiative en place ?
Alors, l'année dernière, donc en début d'année, nous avons contacté la Chambre d'agriculture, par exemple, de Digne-les-Bains, et divers agriculteurs. Et de fil en aiguille, nous sommes tombés sur Monsieur Aveline, donc dans la vallée de l'Asse, qui a été très intéressé donc, par ce projet et qui s'est dit « on va développer nos modes de production ». pour ensuite montrer aux autres agriculteurs donc il est possible de produire en respectant l'environnement et non pas seulement pour le rendement, la production. Voilà.
Et vous avez espoir que ce type d'initiative, de projet puisse se faire boule de neige, si on peut dire comme ça, auprès des agriculteurs qui font de l'agriculture, on va dire, sans prendre vraiment attention à l'écologie.
En fait, c'est des techniques qui vont donner envie aux agriculteurs de pouvoir, enfin, de les reproduire en faisant et en fait. C'est en faisant petit à petit, si on arrive à mettre ce projet en place et qu'il fonctionne bien et qu'on a des résultats qui sont intéressants et qu'en parallèle, il y a d'autres agriculteurs qui font également le même travail et que des agriculteurs qui sont dans un mode de production différent voient des techniques comme celle-ci qui peuvent fonctionner, ça leur donnera envie au fur et à mesure peut-être de pouvoir faire la même chose en voyant que ça marche.
Mais après, c'est quand même quelque chose qui est, ça se fait en fait petit à petit. C'est-à-dire qu'on peut pas aller voir un agriculteur et lui dire de mettre ça, tout ça en place tout d'un coup. Déjà, il y a la question économique qui est très importante. Il faut qu'une exploitation agricole reste viable. On peut pas, c'est beau tous ces projets. Ils sont bien parce qu'on se dit que ça prend soin de la nature, la biodiversité. On va vers quelque chose de durable. Mais il y a quand même la réalité économique qui est là. Les agriculteurs qui ont des familles, qui ont des enfants à faire manger, à un moment donné, il faut qu'il y ait du rendement. Donc on peut petit à petit tendre vers une transition agricole, mais comme on dit, c'est une transition qui va se faire lentement. Et donc ce projet, il a pour but de donner des idées, de donner envie, d'être une parcelle un peu test, témoin, et qui on espère, à terme, deviendra quelque chose de normal, une base pour tous les agriculteurs.
Merci Léna, Elda et Julien. Et puis on rappelle aux auditeurs que cette émission sera en ligne sur notre site www.fréquencemistral.com, onglet émission, dans Digne-les-Bains, bien sûr. Bonne journée à tous les trois et à une prochaine fois.
Merci, bonne journée.
Merci et bonne journée, au revoir.